Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Introduction. Que Dieu se soit révélé en grâce à un monde pécheur est une grande faveur, et pourtant il a fait davantage. Il a dévoilé aux croyants les conseils secrets de son cœur. Si nous désirons connaître la bénédiction de ces révélations, il faut nous tourner vers l'épître de Paul aux Éphésiens, où nous trouvons, donné par l'apôtre inspiré, un exposé des conseils de Dieu pour la gloire de Christ et la bénédiction de ceux qui sont destinés à partager sa gloire. Il est de toute importance de considérer ces deux côtés. D'une part, le conseil de la volonté de Dieu pour tous les croyants, d'autre part, la grâce de Dieu qui apporte le salut pour tous les hommes. En général, nous connaissons mieux sa grâce en salut que les conseils de son cœur. La grâce de Dieu répond à notre condition comme pécheurs, et nous devons obligatoirement commencer par ce qui répond à nos besoins. Mais les conseils de Dieu révèlent ce qu'il s'est proposé d'opérer pour la satisfaction de son propre cœur. La grâce de Dieu en salut et les conseils de Dieu, tout en étant des bénédictions distinctes, ne peuvent pas être séparés, car la grâce qui sauve notre âme conduit à la gloire qui satisfait le cœur de Dieu. Dans la révélation des conseils du cœur de Dieu, nous découvrons le caractère vrai, céleste du christianisme. Nous apprenons que l'assemblée, bien qu'étant formée sur la terre, appartient au ciel et que, bien que subsistant dans le temps, elle a été prévue dans l'éternité et pour l'éternité. Le chapitre 1er nous dévoile ces conseils éternels de Dieu pour Christ et son assemblée en vue de l'éternité. Le chapitre 2 place devant nous les voies de Dieu pour la formation de l'assemblée dans le temps, en vue de ses conseils pour l'éternité. Le chapitre 3 présente le ministère spécial confié à Paul en relation avec la révélation de la vérité de l'assemblée. Les chapitres 4 à 6 constituent la partie pratique de l'épître. Une fois instruits des conseils de Dieu, les croyants sont exhortés à marcher en accord avec ces vérités tout au long de leur pèlerinage ici-bas. Si, dans ces conseils, Dieu s'est proposé de déployer sa grâce dans les saints durant l'éternité, il désire à juste titre que l'assemblée soit, pendant son existence dans le temps, un témoignage à sa grâce, à son amour et à sa sainteté. Chapitre 1er. Le propos de Dieu en Christ. Le premier chapitre de l'Épître place devant nous la révélation du propos de Dieu à l'égard de Christ et de son assemblée. Dans les chapitres suivants, nous découvrirons les voies pleines de grâce de Dieu dans la formation de l'assemblée. Mais le propos de Dieu en vue de l'éternité nous est d'abord révélé afin que nous puissions entrer avec intelligence dans ces voies pendant que nous sommes dans le temps. Après les versets d'introduction, nous trouvons d'abord l'appel de Dieu qui révèle le propos de Dieu à ceux qui composent son assemblée, versets 3 à 7. Deuxièmement, nous avons la révélation de la volonté de Dieu pour la gloire de Christ comme chef de toute la création et la bénédiction de l'assemblée associée à Christ, versets 8 à 14. Troisièmement, nous avons la prière de l'apôtre afin que nous puissions réaliser la grandeur de l'appel de Dieu, la bénédiction de l'héritage et la puissance immense qui accomplit le propos de Dieu et introduit les croyants dans l'héritage. Versets 1 à 7. Le propos de Dieu à l'égard des croyants. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce. Fin de citation. Versets 1 et 2. Au moment de révéler les grands secrets de la volonté et du propos de Dieu, l'apôtre prend soin de rappeler aux saints qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il n'est pas envoyé par l'homme, comme serviteur de l'homme, pour révéler la volonté de l'homme. Il est divinement préparé et envoyé par Jésus-Christ selon la volonté de Dieu pour révéler la volonté de Dieu. De plus, il s'adresse aux croyants d'Éphèse comme saints et fidèles dans le Christ Jésus, montrant par là, dans l'assemblée à Éphèse, une condition spirituelle caractérisée par la fidélité au Seigneur, ce qui les préparait à recevoir ses communications profondes. Il se peut qu'un rassemblement de saints soit marqué par beaucoup de zèle et d'activité, et que pourtant il soit en défaut quant à la fidélité au Seigneur. C'est en fait la condition dans laquelle cette même assemblée d'Éphèse est tombée quelques années plus tard, de sorte que le Seigneur devra leur dire, malgré leur zèle et leur travail, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu es déchu. » À l'époque où l'apôtre écrivait, ils étaient encore, en tant que rassemblement, caractérisés par la fidélité au Seigneur. En outre, à côté d'un bon état d'âme, nous aurons besoin, si l'épître doit nous profiter, de grâce et de paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, ce que l'apôtre désirait pour ses saints. Verset 3. Après les versets d'introduction, l'apôtre développe tout de suite la bénédiction des croyants selon le propos de Dieu et, par conséquent, leurs bénédictions les plus élevées. Dans ce magnifique passage, nous apprenons la source de toutes nos bénédictions, leur caractère, leur origine et le but que Dieu a en vue en nous bénissant si richement. Par-dessus tout, nous apprenons que les propos de Dieu sont accomplis par Christ. La source de toutes nos bénédictions se trouve dans le cœur du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a été parfaitement révélé en Christ. Dans sa marche comme homme au travers du monde, il a manifesté la sainteté et la puissance infinie de Dieu, ainsi que la grâce et l'amour parfait du Père. C'est au cœur de Dieu, le Père, révélé ainsi, que nous avons le privilège de faire remonter toutes nos bénédictions. Puis nous sommes instruits quant au caractère de ces bénédictions. Le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le petit mot « toute » nous parle de la plénitude de nos bénédictions. Pas une seule des bénédictions dont Christ, comme homme, a joui ne nous est refusée. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Malgré tous les avantages extérieurs que la chrétienté professante peut conférer aux hommes, il demeure toujours vrai que les bénédictions chrétiennes sont spirituelles et non pas matérielles comme l'étaient celles de la nation d'Israël. Nos bénédictions ne sont pas moins réelles du fait de leur caractère spirituel. La position de fils, l'acceptation, le pardon, quelques-unes des bénédictions placées devant nous dans ce passage, sont des bénédictions spirituelles qui dépassent les richesses de ce monde, mais qui sont assurés par Christ au plus simple de ceux qui croient en lui. De plus, la sphère propre de nos bénédictions n'est pas la terre, mais le ciel. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Sur la terre, nous sommes peut-être pauvres. Dans le ciel, nous sommes richement bénis. Toutes ces bénédictions spirituelles et célestes sont en relation avec Christ et aucune ne provient de notre relation avec Adam. Elles sont en Christ. Les bénédictions des Juifs étaient temporelles, sur la terre et dans la lignée d'Abraham. Les bénédictions chrétiennes sont spirituelles, célestes et en Christ. À l'opposé des bénédictions terrestres, elles ne dépendent pas de la santé, ni des richesses ou de la position, ni de l'éducation, ni de la nationalité. Elles sont en dehors de tout l'ordre des choses de la terre et elles subsisteront dans toute leur plénitude, lorsque notre vie dans le temps aura pris fin et que notre marche sur la terre sera terminée. Verset 4. Nous apprenons ensuite non seulement la source et le caractère de nos bénédictions, comme venant du cœur de notre Dieu et Père, mais nous trouvons qu'elles ont eu leur origine avant la fondation du monde. C'est alors, dans l'éternité passée, que nous avons été élus en Christ. Cela implique un choix souverain, entièrement indépendant de tout ce que nous sommes en relation avec Adam et son monde, et que rien de ce qui se passe dans le temps ne peut altérer. Bien plus, il nous est accordé de voir non seulement l'origine de nos bénédictions avant la fondation du monde, mais aussi le grand but que Dieu a en vue après que le monde aura passé. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que dans les siècles à venir, nous soyons devant lui pour la satisfaction de son cœur, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Si le propos de Dieu est d'avoir un peuple devant lui pour toute l'éternité, il faut qu'il soit dans une condition qui réponde absolument à ce qu'il est. Et pour répondre à ce qu'il est, il faut qu'il soit comme lui. Seul ce qui est comme Dieu peut convenir à Dieu. Aussi, Dieu veut que nous soyons saints et irréprochables et en amour. C'est là véritablement ce que Dieu est et ce qui a été exprimé en perfection en Christ comme homme. Il était saint dans son caractère, irréprochable dans sa conduite et dans sa nature, amour. Dieu veut aussi nous avoir devant lui dans un caractère qui soit parfaitement saint, dans une conduite à laquelle aucun blâme ne puisse se rattacher, et avec une nature qui est amour et peut répondre à l'amour de Dieu. Dieu est amour, et l'amour ne peut être satisfait sans une réponse de la part de ceux qui en sont les objets. Dieu s'entourera de ceux qui, comme Christ, homme, répondent parfaitement à son amour, afin qu'il puisse se réjouir en nous et que nous puissions nous réjouir en lui. Lorsque la foi reçoit ces grandes vérités et en considère le but glorieux, elle se réjouit de tout ce qui a été révélé du cœur de Dieu et de l'efficacité de l'œuvre de Christ. L'amour du Père est tel et la vertu de l'œuvre de Christ est telle que, pour toute l'éternité, nous serons devant la face du Père, saints et irréprochables, et, par conséquent, dans la jouissance pleine et entière de l'amour divin. Lorsqu'il nous est donné de regarder dans l'éternité et de voir la vaste étendue des bénédictions qui sont en réserve pour nous, ce monde passager, qui souvent nous paraît si grand et important, devient très insignifiant, tandis que le christianisme, vu dans son vrai caractère selon Dieu, devient extrêmement grand et béni. Verset 5. Il y a, en outre, des bénédictions spéciales auxquelles les croyants sont prédestinés. La prédestination semble toujours avoir en vue ces bénédictions spéciales. Selon l'élection souveraine, les croyants, en commun avec les anges, seront devant Dieu, saints et irréprochables. Mais en plus de ces bénédictions, les croyants ont été prédestinés à la place particulière de fils. Nous sommes introduits dans la même position de relation avec le Père que Christ en tant qu'homme, de sorte qu'il peut dire « Mon Père est votre Père ». Les anges sont des serviteurs devant lui, nous sommes des fils pour lui. Cette position spéciale de relation est selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, la bénédiction du verset 5 surpasse la bénédiction du verset 4. Là, c'était l'élection souveraine qui, par grâce, nous rend propres pour lui. Ici, c'est le bon plaisir de Dieu qui prédestine des croyants à la relation de fils. Verset 6. La manière dont Dieu a agi, en nous prédestinant à cette place élevée de bénédiction, sera la louange de la gloire de sa grâce. Les richesses de la grâce de Dieu nous rendent propres à être devant lui, la gloire de sa grâce nous met en relation avec lui, nous ayant rendus agréables dans le bien-aimé. Si nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé, nous sommes agréés comme le bien-aimé, avec toute la joie avec laquelle le bien-aimé a été reçu dans la gloire. Verset 7. Les versets précédents ont présenté le propos de Dieu pour les croyants. Dans ce verset, la manière que Dieu a employée pour que nous puissions avoir part à ses bénédictions nous est rappelée. Nous avons été rachetés par le sang de Christ, et nos péchés ont été pardonnés selon les richesses de sa grâce. Les richesses de sa grâce répondent à tous nos besoins comme pécheurs. La gloire de sa grâce répond au bon plaisir de Dieu de nous bénir comme saints. Un homme riche pourrait combler un mendiant de l'abondance de ses richesses, et ce serait une grande grâce. Mais si l'homme riche allait plus loin et introduisait le pauvre dans sa maison et lui donnait la place de fils, ce ne serait pas seulement de la grâce envers le pauvre, mais ce serait à l'honneur et à la gloire de l'homme riche. Les richesses de la grâce ont répondu aux besoins du fils prodigue et l'ont revêtu d'une robe provenant de la maison du père. La gloire de la grâce lui a donné la place de fils dans la maison. La gloire de la grâce de Dieu a fait des croyants des fils et non des serviteurs. Versets 8 à 14. La révélation de la volonté de Dieu pour la gloire de Christ et la bénédiction de l'Assemblée. Citation de l'Écriture. Sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Fin de citation. Versets 8 et 9. Non seulement Dieu nous a destinés à la bénédiction dans laquelle nous serons introduits plus tard, et non seulement nous possédons la rédemption de nos âmes et le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, mais cette même grâce a abondé envers nous afin que nous puissions avoir dès maintenant la connaissance de son propos. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour que nous ayons connaissance du bon plaisir qu'il s'est proposé en lui-même. C'est la volonté de Dieu que l'Assemblée, tandis qu'elle est ici-bas, soit la dépositaire de ses conseils. Dieu veut que nous soyons sages et intelligents à l'égard de tout ce qu'il fait et fera encore, pour son bon plaisir, pour la gloire de Christ et pour la bénédiction de l'Assemblée. Ayant la pensée de Dieu, nous serons gardés dans la tranquillité en présence de l'agitation du monde, et nous serons élevés au-dessus d'une scène d'affliction et de péché, car nous connaissons la fin de toutes choses. Dans l'Écriture, un mystère n'est pas nécessairement une chose cachée, mais plutôt un secret qui est révélé aux croyants avant qu'il ne soit déclaré publiquement au monde. Dans ce monde, nous voyons l'homme faisant sa propre volonté selon son propre plaisir, d'où tant d'afflictions et de confusion. Mais le privilège du croyant est de connaître les secrets de Dieu et de savoir ainsi que Dieu va opérer toutes choses selon son bon plaisir et que, finalement, ses propos triompheront. Versets 10 et 12. Ces versets placent devant nous ce mystère de Dieu. Nous apprenons qu'il y a deux parties à ce mystère. D'abord le propos de Dieu pour Christ, puis ce que Dieu s'est proposé pour l'Assemblée associée à Christ. C'est le bon plaisir de Dieu pour l'administration de la plénitude des temps de réunir en un toutes choses dans le Christ. La plénitude des temps peut difficilement faire allusion à l'état éternel, car alors Dieu sera tout en tous. Elle semblerait indiquer le monde à venir, le jour millénaire, lorsque le plein résultat des voies de Dieu en gouvernement sera vu dans sa perfection. Tous les principes de gouvernement qui ont été confiés aux hommes dans les différentes époques et dans lesquels ils ont fait si complètement faillite seront vus en perfection sous l'administration de Christ. La ruine des temps a été vue sous le gouvernement de l'homme. La plénitude ou perfection des temps sera vue lorsque Christ règnera. Alors toutes choses créées, tout être, dans les cieux et sur la terre, seront soumis à son autorité et à sa direction. Et le résultat sera que l'unité, l'harmonie et la paix prévaudront. Tel est le secret ou le mystère de la volonté de Dieu pour la gloire de Christ. De plus, c'est le bon plaisir de Dieu que l'Assemblée, associée à Christ, ait part à ce vaste héritage sur lequel Christ sera chef. Au verset 11, l'apôtre dit Nous avons été faits héritiers, faisant sans doute allusion aux croyants d'entre les Juifs. La nation juive avait perdu son héritage terrestre en rejetant Christ et en poursuivant sa volonté propre. Le résidu des Juifs, qui croira en Christ, obtiendra un héritage plus glorieux dans le monde à venir, selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Associés à Christ dans son règne, les croyants manifesteront sa gloire. En ce jour, il sera glorifié et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Le monde et la création entière seront bénis sous lui. L'assemblée aura sa part avec lui. Ces croyants d'entre les Juifs avaient espéré à l'avance en Christ. Ils avaient espéré en Christ durant le jour de sa réjection. La nation restaurée croira en lui au jour de sa gloire. Verset 13. Le « vous » du verset 13 introduit les croyants d'entre les nations dans la bénédiction de ce glorieux héritage. Ils avaient cru l'évangile de leur salut et avaient été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Le « notre » du verset 14 unit les croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations. Ils partagent ensemble ce glorieux héritage. Par l'Esprit, nous jouissons d'un avant-goût de la bénédiction de l'héritage. Cet héritage est une possession acquise. Le prix en a été le sang précieux de Christ. Toute la création est à lui, car il est le Créateur. Tout est à lui, par achat. Bien que tout ait été acquis, tout n'a pas encore été racheté. Il a acquis l'héritage par le sang. Il rachètera l'héritage par la puissance. Lorsque par sa puissance il aura délivré toute la création de l'ennemi, ce sera à la louange de la gloire de Dieu. Versets 15 à 23. Prière pour que les croyants sachent quelle est l'espérance de l'appel et la gloire de l'héritage. Versets 15 et 16. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi moi aussi, ayant ouï parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Fin de citation. La prière commence par l'exposé de la condition spirituelle des saints à Éphèse, une condition qui incitait l'apôtre à rendre grâce et à prier sans cesse pour eux. D'une façon très bénie, ils étaient caractérisés par la foi au Seigneur Jésus et l'amour pour tous les saints. Christ étant l'objet de leur foi, les saints devenaient l'objet de leur amour. Il ne peut y avoir de preuve plus grande d'une foi vivante en Christ que l'amour pratique pour les saints. La foi met l'âme en relation avec Christ et, étant en contact avec lui, le cœur va au-devant de tout ce qu'il aime. Plus nous nous tiendrons près de Christ, plus nos affections envers ceux qui lui appartiennent s'épancheront. Ayant entendu parler de leur foi et de leur amour, l'apôtre est contraint de rendre grâce et à prier sans cesse pour ses saints. Si nous ne sommes occupés que des défauts et des manquements de nos frères, nous serons accablés et nous passerons notre temps à nous plaindre des saints. Mais si nous recherchons ce que la grâce de Dieu a produit en eux, et si nous en sommes occupés, nous serons pleins de motifs de rendre grâce sans pour autant être indifférents à ce qui doit être corrigé. L'apôtre n'ignorait jamais ce qui était de Christ dans les saints, sans être jamais indifférent à ce qui était de la chair. Même quant aux saints à Corinthe, chez lesquels il y avait tant de choses à reprendre, il peut rendre grâce pour ce qu'il voyait de Dieu en eux. Dans notre faiblesse, nous sommes enclins à tomber dans un extrême ou dans un autre. Dans notre souci de manifester de l'amour, nous traiterons peut-être avec beaucoup de légèreté ce qui est mauvais, ou, dans notre opposition à ce qui est mauvais, nous ne discernerons peut-être pas ce qui est de Dieu. L'apôtre avait développé les conseils de Dieu à ses saints, et le fait qu'il est contraint de prier témoigne, en soi, de l'immensité de ses conseils. La force du langage humain est insuffisante pour les exprimer et la capacité de l'esprit humain trop faible pour les saisir. L'apôtre comprend que, pour que ces grandes vérités nous touchent, il ne suffit pas de les énoncer. En écrivant à Timothée, il dit « Considère ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. » Ainsi, dans cet épître, Paul, conduit par l'Esprit, peut nous révéler les conseils de Dieu, mais il réalise que seul Dieu peut en donner la compréhension. aussi s'adresse-t-il à Dieu par la prière. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Fin de citation. L'apôtre s'adresse au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans cette prière, le Seigneur Jésus est vu comme homme. La prière du chapitre 3 est adressée au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car là, le Seigneur est considéré comme le Fils. Une autre raison de l'emploi des noms différents dans les deux prières peut être que l'apôtre désire, dans la première prière, que nous connaissions la puissance qui exécute les conseils de Dieu, car le nom de Dieu est lié à juste titre à la puissance. Et la seconde prière concernant l'amour est adressée de façon tout à fait appropriée au Père. Dans cette prière, Dieu est aussi appelé le Père de gloire, dans la pensée que la scène de gloire vers laquelle nous nous dirigeons tire son caractère du Père en qui elle a sa source. Son amour et sa sainteté rempliront de gloire ce monde dans lequel Dieu sera parfaitement manifesté. Tandis que le Père est le ressort et la source de la gloire, le Seigneur Jésus comme homme est le centre et l'objet de la gloire. En lui, toute la puissance de Dieu est déployée, son nom est au-dessus de tout nom, et il est chef sur toute chose à l'assemblée. Pour entrer dans les vérités qui forment le sujet de la prière de l'apôtre, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance de Christ. Toute la sagesse de Dieu et toute la révélation de la volonté de Dieu sont données à connaître en Christ. Aussi avons-nous besoin de la pleine connaissance de Christ pour entrer dans la sagesse de Dieu, la révélation que Dieu a faite de lui-même et de ses conseils. En outre, la connaissance de Christ, pour laquelle l'apôtre prie, n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais une connaissance de cœur d'une personne, car il dit « les yeux de votre cœur étant éclairés ». À maintes reprises, nous voyons dans l'Écriture, et nous apprenons par l'expérience, que Dieu enseigne par les affections. Il en fut ainsi dans le cas de la femme pécheresse de Luc 7, qui a beaucoup aimé et a appris rapidement. Tel fut aussi le cas d'une femme sainte et dévouée, Marie de Magdala, en Jean 20. Son affection pour Christ était apparemment plus active au jour de la résurrection que celle de Pierre et de Jean. Le Seigneur se révéla à ce cœur aimant et lui donna la magnifique révélation de la position nouvelle de ses frères en relation avec le Père. Après ces demandes préliminaires, l'apôtre expose les trois grandes requêtes de sa prière. Premièrement, que nous sachions quelle est l'espérance de son appel. Deuxièmement, que nous sachions quelles sont les richesses de la gloire de l'héritage de Dieu dans les saints. Troisièmement, que nous connaissions la puissance qui opérera le propos de l'appel et introduira les saints dans l'héritage. L'appel est en haut, en relation avec des personnes divines dans les cieux. L'héritage est en bas, en relation avec les choses créées sur la terre. Comme nous l'apprenons par Philippiens 3, verset 14, l'appel est céleste, de Dieu et en Christ. La source de l'appel est Dieu. Aussi en est-il parlé ici comme de son appel. Il nous est exposé dans les versets 3 à 6 de ce chapitre. Selon l'appel divin, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, nous sommes élus en Christ par le Père, pour être devant Dieu conformes à lui, saint et irréprochable devant lui en amour, pour la joie et la satisfaction de son cœur. L'appel nous dit encore que nous serons devant Dieu non pas comme des serviteurs, tels les anges, mais comme des fils devant sa face. De plus, l'appel nous dit que nous serons dans la faveur éternelle de Dieu, agréable dans le bien-aimé. Enfin, nous apprenons dans l'appel que nous serons à la louange éternelle de la gloire de la grâce de Dieu. Pour résumer l'appel tel qu'il est présenté dans ces magnifiques versets, il signifie que nous sommes élus et appelés en haut dans les cieux à une bénédiction céleste pour être comme Christ et avec Christ devant le Père, en relation avec le Père, dans la faveur du Père, à toujours et à la louange éternelle de la gloire de sa grâce. Tel est l'appel au sujet duquel l'apôtre prie, et nous pouvons bien prier aussi qu'il nous soit donné d'entrer dans sa bénédiction et de savoir quelle est l'espérance de son appel. Ici, l'espérance n'a rien à voir avec la venue du Seigneur. Les saints étant vus dans cette épître comme assis dans les lieux célestes, il n'y a pas d'allusion à la venue du Seigneur. L'espérance est, comme l'a dit quelqu'un, la pleine révélation dans la gloire éternelle de tout ce à quoi Dieu nous a appelés en Christ, comme fruit de ses conseils dès l'éternité passée. Deuxièmement, l'apôtre prie pour que nous sachions quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. On a dit, dans son appel nous regardons en haut, l'héritage, lui, s'étend pour ainsi dire sous nos pieds. L'héritage est présenté dans les versets 10 et 11 de ce chapitre. Nous apprenons là que l'héritage embrasse toutes les choses créées, dans les cieux et sur la terre, dont Christ sera le chef glorieux. En lui, l'assemblée obtiendra un héritage, car nous régnerons avec lui. Dans la prière, l'héritage est appelé son héritage dans les saints. Un royaume ne consiste pas uniquement en un roi et un territoire, mais en un roi et ses sujets. En outre, les richesses de la gloire de son héritage seront déployées dans les saints. En ce jour, il sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Versets 19 et 20. Citation de l'Écriture. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Fin de citation. Troisièmement, l'apôtre demande que nous sachions quelle est la puissance envers nous qui opérera ces grandes choses. Il est parlé de la grandeur de la puissance et de son opération. Elle opère donc envers nous dans le temps présent. C'est l'excellente grandeur de sa puissance. Il y a d'autres puissances et de grandes puissances dans l'univers, mais la puissance qui opère envers nous surpasse toute autre puissance, que ce soit la puissance de la chair en nous ou la puissance du diable contre nous. Quel réconfort de savoir que, dans toute notre faiblesse, il y a l'excellente grandeur d'une puissance envers nous et opérant pour nous. Versets 20 à 23. Citation de l'Écriture. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fin de citation. De plus, c'est une puissance qui ne nous a pas seulement été révélée dans une déclaration, mais qui s'est déployée dans la résurrection de Christ. Le monde et Satan ont pu montrer le plus grand déploiement de leur puissance, la puissance de la mort, lorsqu'ils ont cloué Christ sur la croix. Puis, après que le diable et le monde eurent exprimé leur puissance à son degré extrême, Dieu a manifesté l'excellente grandeur de sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le plaçant, comme homme, dans la position la plus élevée de l'univers, à sa droite même. Christ a été établi dans cette position d'exaltation au-dessus de toute autre puissance, qu'il s'agisse des principautés et autorités spirituelles ou des puissances et dominations temporelles. Certains noms sont donnés pour le gouvernement de ce monde et du monde à venir, mais Christ a un nom au-dessus de tout nom, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Plus encore, Christ n'est pas seulement au-dessus de toute puissance, mais tout mal sera assujetti sous ses pieds. Telle est l'expression suprême de la puissance qui, non seulement nous amènera à partager avec Christ cette place élevée de gloire, mais qui nous accompagne tandis que nous marchons vers la gloire. Nous apprenons ensuite une autre grande vérité. Celui en qui toute la puissance a été manifestée, qui est placé dans une position au-dessus de toute autre puissance, qui a le pouvoir d'assujettir tout le mal, est celui qui est donné pour chef sur toute chose à l'assemblée. En relation avec toutes les puissances de l'univers, il est placé au-dessus de toute puissance. Par rapport au mal, tout est assujetti sous ses pieds. En relation avec l'assemblée, son corps, il est chef et chef pour diriger en toutes choses. Ainsi, c'est le privilège de l'assemblée de regarder à Christ pour être conduite et dirigée pour toutes choses. En présence de toute puissance contraire et de tout mal, nous avons une ressource en Christ notre chef. Il peut certes se servir de dons et de conducteurs pour nous instruire et nous guider, mais c'est au chef que nous devrions regarder, et non pas simplement au pauvre et faible vase que, dans sa grâce, il peut juger utile d'employer. Dans le verset 22, nous apprenons ce que Christ est à l'assemblée, ce que la tête est au corps. Au verset 23, nous apprenons ce que l'assemblée est à Christ, ce que le corps est à la tête. L'assemblée est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'assemblée, comme son corps, sert au déploiement de toute la plénitude de la tête. Christ doit être manifesté dans l'assemblée. Rien ne saurait être plus merveilleux que la place que l'assemblée a en relation avec Christ. On a dit, c'est son corps, rempli de son amour, plein d'énergie par son esprit, exécutant ses pensées, comme nos corps accomplissent nos pensées et les propos de notre esprit. Hélas, n'ayant pas donné à Christ sa place comme chef sur toute chose à l'assemblée, nous n'avons, comme conséquence nécessaire, pas manifesté la plénitude de Christ. Dans toute cette belle prière, l'apôtre recherche un effet présent sur la vie des saints. L'appel et l'héritage nous sont assurés. Aussi l'apôtre ne demande pas que nous ayons l'espérance et l'héritage, mais que nous sachions ce qu'ils sont. Ainsi, la connaissance de ce qui va venir doit avoir un effet actuel sur notre vie et notre conduite, nous délivrant, dans la puissance de la vie de résurrection, de la chair et de toute puissance contraire, et nous séparant, en esprit, du présent siècle.